Bonjour. Contrairement aux fois d'avant, je me suis dit, je ne vais pas parler de choses que j'ai vécues, de choses que je peux témoigner, et je ne vais pas parler de moi-même. Il y en a qui vont rire juste après. J'ai décidé de parler de la notion d'avoir un fort caractère ou un mauvais caractère. Je suis content, on n'a pas beaucoup qui rigolent quand même. Il y aurait eu Annie, elle aurait été morte de rire au fond, mais. Non, donc ben forcément, enfin, ceux qui me connaissent savent que je fais partie de cette catégorie-là, de gens qui sont capables d'avoir un. Enfin, c'est pas qu'ils sont capables, qui ont un mauvais caractère, faut le dire comme ça. Alors certains vont dire, oh ben non, pas toi, t'as l'air tout gentil, tout ça, tout machin, et je pense que ceux qui me connaissent vraiment le savent parfaitement. Et le Seigneur, lui, le sait parfaitement. Alors j'ai eu du mal à. J'ai eu du mal à définir la notion d'avoir un mauvais caractère, d'avoir un fort caractère, une forte personnalité. J'ai pas forcément de définition à vous donner. Pour moi, c'était un peu caractérisé. Voilà, quand on parle d'une forte personnalité, la personnalité, c'est ce qui nous distingue des autres. Et dans ce sens, avoir une forte personnalité, c'est une personnalité qui sort du lot par rapport aux autres, qui est peut-être une couleur plus vive que d'autres qui ont des couleurs un peu plus pastel et qui savent passer peut-être un peu plus partout, on va dire. Avoir un fort caractère, c'est avoir une personnalité qui s'affirme facilement. Voilà, si on doit avoir une discussion sur un sujet et que j'ai mon point de vue, et en général je l'ai, bah je vais le dire et c'est tout. Alors qu'en fait, il y a plein de gens qui vont laisser filer et puis voilà, ils vont se dire bah, ce que je pense, c'est pas important ou voilà. Et je vais le dire et avec conviction si je suis convaincu. Ça, je pense que c'est aussi une caractéristique de ceux qui ont un fort caractère. Voilà, j'ai pas forcément d'autres définitions à donner. Je pense que ceux qui sont dans mon cas se reconnaîtront. Alors, on se reconnaît peut-être pas tous les uns les autres, on le voit pas, mais voilà, on le sait en fait si on a un caractère qui a tendance à s'affirmer, voilà, à taper du poing sur la table, ou si on a tendance à savoir adoucir les choses, à être doux. Je le mettrais peut-être en opposition en fait avec la douceur, le fait d'avoir un caractère marqué. Alors, j'étais embêté parce qu'en fait la Bible parle pas forcément directement d'avoir un mauvais caractère. On trouvera pas ça texto dans la Bible, mais pour moi j'ai vu des exemples dans ce que j'ai lu. Et alors, vous me direz peut-être c'est de l'interprétation, on n'a pas tant de données que ça sur ces personnes-là dans la Bible, mais les personnes que je vais vous décrire, pour moi, c'est des personnes qui avaient un caractère marqué, et voilà, on a quelques indices qui montrent qu'ils étaient comme ça. Alors, j'ai pris trois exemples. Le premier, on en a parlé la semaine dernière, c'était Naaman, le chef de l'armée de Syrie. Alors, on lit son histoire dans 2 Rois, chapitre 5. Donc il y a le verset 1 qui m'intéresse. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et de grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Après, à partir du verset 9, alors verset 8, donc vous connaissez l'histoire, on l'a lu, on en a parlé la semaine dernière. Naaman était chef de l'armée de Syrie et il était malheureusement lépreux, on vient de le lire. Et en fait, il avait une esclave qui était hébreu et qui lui a dit, ben, si tu étais dans le pays de mes parents, tu connaîtrais qu'il y a un Dieu qui peut te guérir de ta lèpre. Alors du coup, Naaman a été en Israël. Bon, il y a toute une histoire, hein, mais je ne vais pas détailler. Et il a fini par arriver chez Élisée, qui était prophète à cette époque-là. Et donc, on le lit à partir du verset 9, donc toujours dans 2 Rois 5. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant: Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent : Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit : Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. On verrait qu'après, Élisée, il refuse, et bon, il y a une suite à l'histoire, mais je vais m'arrêter là pour ce qui nous concerne. Donc, ce qu'on voit déjà, ce qui est sûr en tout cas, c'est que Naaman, c'était quelqu'un d'important et quelqu'un de remarquable. Il n'était pas mélangé à la foule, c'est pas un inconnu. On voit que c'est le chef de l'armée de Syrie, et c'était un homme fort et vaillant. Alors, je ne dis pas que ceux qui ont mauvais caractère sont forts et vaillants, mais ceux qui ont mauvais caractère sont souvent pas mélangés à la foule, en fait. Ils ressortent du lot, justement, de par leur caractère, de par un peu leur forte personnalité. Et alors, ce qui me fait dire qu'il était, c'était un sale caractère, c'est sa réaction quand Élisée lui envoie sa réponse, et puis il lui dit pas directement ce qu'il doit faire. Il lui envoie son serviteur, il dit « Ah, tu fais ça, et puis voilà, tu seras guéri ». Et là, Naaman, directement, c'est Naaman fut irrité, il s'en alla. Et là, je m'imagine tout à fait en train « il aurait pu au moins venir me voir, quoi ». Et puis finalement, il m'envoie son serviteur, je suis quelqu'un d'important. Il aurait pu faire quelque chose d'un peu plus solennel, quoi. Il est prophète, mince, hein. Puis son fleuve, là, c'est un truc boueux, je vais pas aller me laver dans ça. Je suis pas n'importe qui. On sent tout de suite qu'il y a de la colère qui monte facilement en lui. Et je pense que c'est ça qui... Je vais employer le « nous », du coup, ça, c'est ça qui nous caractérise, c'est qu'on a tendance à s'emballer très facilement, et la réflexion vient après, en fait, souvent. Alors, je crois aussi que ce qui nous caractérise, c'est qu'on est soit noir, soit blanc. Et il y a très peu de gris tant que le Seigneur a pas réussi à faire un peu le mélange et à avoir mis un peu ses couleurs à lui, en fait. Il est complètement noir. Il dit, il envoie tout balayer et puis il dit non, c'est tout, je vais retourner chez moi. Je suis venu pour rien et j'ai perdu mon temps avec cet homme-là. Et il lui a fallu ses serviteurs qui sont venus le voir et qui ont dit, écoute, doucement, calme-toi. Si t'avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. T'es quelqu'un comme ça, tu fais même si c'est difficile. Alors c'est facile, fais-le. Et du coup, après réflexion, il s'est dit, bon. Voilà, il y est allé quand même. Il s'est dit, c'est vrai, ils n'ont pas tort. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui nous caractérise, c'est que on a tendance à s'emballer vite. Après, finalement, il faut quelqu'un d'autre pour venir nous dire, écoute, tu sais, c'est un peu pour ça que je suis avec Maï, en fait. C'est Maï qui vient et qui dit, mais réfléchis un peu, il y a ça, et tu vois. Et puis, finalement, elle arrive à présenter les choses soit d'une autre manière, soit à juste y aller avec de la douceur. Et voilà, là, on commence à réfléchir, on se dit, ouais, en fait, je me suis un peu emballé pour rien et ouais, je vais quand même y aller, c'est mieux. Voilà, c'est Naaman qui est comme ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand il est guéri, bah, il retourne voir l'homme de Dieu et là, il est complètement blanc, en fait. C'est voilà, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel, je veux te faire un cadeau et il va même lui expliquer que voilà, des fois, ça m'arrive de me prosterner dans la maison du Dieu de mon maître, j'ai pas le choix, je suis obligé, mais s'il te plaît, demande pardon à Dieu pour moi et voilà. Et voilà, il est complètement blanc, il a changé du tout au rien, en fait, juste par cet épisode-là. Alors bon, c'est sûr, il a été guéri par Dieu, et d'une façon qui est quand même assez, assez extraordinaire. Donc forcément qu'il change radicalement aussi. Mais je crois que c'est aussi lié à son caractère, en fait, cette façon de changer comme ça. Alors, un autre exemple, qui pour moi est un caractère un caractère assez fort, c'est Pierre, dans le Nouveau Testament. En fait, comme Naaman, on n'a pas vraiment beaucoup d'indices. On sait juste qu'à plusieurs reprises, Pierre, il est sorti du lot par rapport aux autres, par rapport aux autres disciples. On a le nom des 12 disciples, mais ceux qui ressortent souvent, c'est Pierre, c'est Jean, globalement. Pierre, il prend l'initiative, par exemple, quand ils sont sur la montagne de la Transfiguration. C'est lui qui dit à Jésus, bah, écoute, on va installer des tentes, et puis comme ça, ce sera pour toi, Moïse, et la troisième personne qui était avec eux. Élie, voilà. Après, c'est lui aussi qui demande à Jésus Jésus, combien de fois il faut pardonner à mon frère s'il a péché contre moi? Et c'est lui aussi, dans Matthieu 19, je trouve que c'est une question qu'il a été un peu culotté, je trouve, de poser. Dans Matthieu chapitre 19, au verset 27. Donc c'est un paragraphe où Jésus il explique que les disciples vont souffrir comme lui, ils vont vivre finalement des choses comme lui, mais après lui. Lui, il faut qu'il le fasse d'abord et les autres vont souffrir après. Jésus explique, il n'en sera pas de même parmi vous, quiconque veut être grand parmi vous, donc au verset 26, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Doit pas être au beau chapitre. Non, je suis au chapitre 20 en fait, c'est pour ça. Ça ressemble pas. Voilà, donc le contexte n'est pas le même. C'est bien, il y a des gens qui suivent. C'était l'histoire du jeune homme riche, en fait. Alors, ça ressemble un peu dans le sens où Jésus dit, voilà, si vous avez trop de choses avec vous, ça va être difficile de me suivre, globalement. C'est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et alors, Pierre, il prend la parole, donc au chapitre 19, verset 27, et il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus lui répond que ben, il y aura des persécutions et il y aura aussi une récompense, globalement. Mais je trouve cette question de Pierre, elle est. Bah, Jésus, nous, on a tout suivi, alors enfin, c'est un peu. On peut la comprendre dans un sens. Qu'est-ce qu'on aura en échange? Qu'est-ce qui va nous advenir de nous et qu'est-ce qui va se passer pour nous? Et c'est un peu. Voilà, c'est Pierre, il sort du lot et il ose poser des questions comme ça à Jésus. Je pense qu'il y a plusieurs autres disciples qui ne l'auraient pas posé cette question, ou qui y pensaient, mais qui n'osaient pas. D'ailleurs, pour certains, c'est leur mère qui va poser la question à Jésus. C'était le paragraphe qu'on lisait tout à l'heure. C'est au chapitre 20, verset 20. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Et lui dit, ordonne que mes deux fils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ça aussi, c'est une question. Ouais, je crois que les gens réagissent pas à ce qu'ils demandent à Jésus. Et Pierre, c'était un peu une question quand même un peu périlleuse. Et bon, il y va franco. Et je me reconnais là un peu aussi à être capable d'aller voir des gens qui sont, on va dire des gens dans mon travail, par exemple, qui sont bien placés. Et puis à lui poser des questions, bah voilà, comme je la poserais à n'importe qui. Et voilà, des fois la réponse, elle fait mal et elle nous remet à notre place en fait. Elle nous montre que t'es qui. Enfin, c'est un peu t'es qui pour me poser cette question-là, toi. Malheureusement, c'est lié à ce caractère de dire bah moi j'y vais et puis je fonce quoi. Il y a pas de problème, ça m'arrête pas. Alors, on voit plus le caractère de Pierre en fait à d'autres épisodes. On le voit dans Matthieu 14 verset 22. Enfin, je vous dis que des versets connus, normalement vous avez presque pas besoin de votre Bible. Sauf pour vérifier que je me trompe pas de chapitre. Donc Matthieu 14 verset 22. C'est le moment où il va y avoir une tempête sur les eaux. Donc, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et dirent, c'est un fantôme! Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, et encore, enfin, Pierre, c'est n'importe quoi. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Qu'est-ce qui lui passe par la tête d'aller demander à Jésus, ben, si c'est toi, allez, moi aussi, je veux aller sur les eaux, je veux y aller, je veux marcher comme ça. Ça me viendrait, enfin. Du coup, je me dis, là, ça ne me viendrait pas à l'esprit, je suis peut-être pas encore aussi avancé que Pierre dans une personnalité trop forte. Mais Jésus lui répond, bah viens. Du tac au tac, hein. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est génial de savoir s'affirmer comme ça, parce que du coup, il a été le seul humain, après Jésus, à marcher sur les eaux, lui aussi. Ça a des bons côtés quand même de savoir s'affirmer, de savoir se lancer, parce que on gagne des choses que certains n'auraient pas eues. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. C'est des passages surréalistes, je trouve, dans la Bible. Mais voilà, c'est la question de Pierre, en fait, qu'il n'a pas peur de poser. Bah, « Jésus, si c'est toi, je veux marcher sur les eaux. » Et ça, c'est le côté positif, c'est qu'il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et le côté négatif, c'est qu'en fait, de sa propre force, de sa propre personnalité, il ne pouvait pas marcher sur les eaux. Et il avait beau se croire fort, se croire « moi, je peux foncer, je peux y aller », au bout d'un moment, il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il a vu les vagues qui montaient, il a vu le vent et il a commencé à avoir peur finalement parce que, quelle que soit votre force à vous-même, il y a un moment où les circonstances seront plus fortes que vous et vous ne pourrez pas lutter. Et là, en voyant ça, j'ai beau être fort, j'ai peur. Et comme j'ai peur, je suis obligé d'appeler Jésus pour qu'il me secoure. Et je pense que c'est aussi une caractéristique de, voilà, quand on aime foncer, on n'a peur de rien. On fonce, on y va et puis c'est tout. Sauf qu'à un moment, on ouvre les yeux, dans un sens, on redevient un petit peu réaliste, et on s'aperçoit qu'autour, c'est la tempête, c'est le vent, ça bouge dans tous les sens, et qu'en fait, tout ce que j'ai gagné en faisant le malin, c'est de couler. Et là, on est obligé de faire appel à Jésus. Alors, un autre épisode où on voit la personnalité de Pierre, c'est en Matthieu 16. Au verset 13, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon Pierre, encore lui, répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alors, il y a une suite au verset. Ce qui est terrible, c'est que juste après, on retrouve Pierre, donc au verset 21, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, je pense que Pierre, dans le premier cas, il y a eu un éclair de lucidité, il a laissé tomber sa façon à lui de voir les choses, et il a vraiment été, d'ailleurs c'est ce que lui dit Jésus, il a été inspiré par Dieu pour dire « tu es le Fils de Dieu ». Et malheureusement, il y a eu une remontée de sa personnalité, et juste après, « non, Seigneur, tu souffriras pas, j'irai avec toi, et ça se passera pas comme ça ». Et il était déjà en train de dire l'inverse de ce que Dieu voulait faire. Et on retrouve ce côté un peu de Naaman, il est tout blanc, tout noir, mais entre les deux, c'est compliqué. Et on le voit qui bascule en fait en pas très longtemps, quoi. La réponse de Jésus, en fait, dans le verset 24. À ces deux petits paragraphes, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et je pense que c'est la réponse de Dieu à quand nous on affirme notre personnalité, quand nous on affirme notre force, c'est de nous dire en fait, laisse tomber ta personnalité, laisse tomber tout ça, prends ta croix, prends-moi en fait, simplement. Revais-toi de moi. Une formulation un peu bizarre, mais je crois que c'est ça. Revais-toi de moi, et alors là, tu pourras me suivre. Mais si tu gardes tout ce que toi, tu représentes, tout ce que toi, tu penses gagner et faire, alors tu n'arriveras à rien comme ça. Celui qui voudra sauver sa vie, sauver son caractère, sa personnalité, sa, sa façon à lui de voir les choses, il la perdra. Et celui qui la perdra, qui la laissera aux pieds du Seigneur, alors lui, il y retrouvera une vraie vie. Alors, l'autre fois encore, où ça se rapproche en fait de ce passage-là, où on retrouve Pierre, et là aussi c'est super connu, c'est quand Pierre renie Jésus en fait. On trouve ça dans Matthieu 26. Au verset 31, Jésus dit à ses disciples, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prenant la parole, on le revoit souvent quand même Pierre, Pierre prenant la parole lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne serais jamais pour moi. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. On retrouve un peu Pierre et les disciples. Et Pierre a tendance à tirer les disciples dans sa direction. Et du coup, là, pour l'occasion, c'est pas une bonne chose. Et ça aussi, je crois que c'est une caractéristique. Quand on a une personnalité forte, une volonté forte, on est capable d'entraîner des gens avec nous. Et malheureusement, si on suit une mauvaise voie, si on suit le mauvais chemin, on les entraîne avec nous sur le mauvais chemin. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, dans tous les cas, on surestime toujours nos capacités, on surestime notre volonté. C'est ce qu'on retrouve dans tous ces passages-là. En fait, à chaque fois, la personne pense qu'elle peut tout faire d'elle-même, qu'elle n'a pas besoin du prophète, du Jourdain, de ça, qu'elle n'a pas besoin de Jésus. Et finalement, elle se retrouve à un moment où elle est obligée d'accepter le fait que, si, je ne suis pas assez fort moi-même, j'ai pas la capacité moi-même de tenir et j'ai besoin de Jésus. Alors, voilà, c'est ce que Jésus a dit à Pierre, ça s'est réalisé, vous le savez tous, avant que le coq chante, il a renié Jésus. Et je pense que là, ça a été peut-être sa plus grosse prise de conscience, de se dire, il avait raison, et il a dû remonter en arrière de tout ce qui s'est passé, et de se dire, en fait, depuis le début, je suis à côté de la plaque, et il faut vraiment que le Seigneur, il change quelque chose en moi. Je crois que en tout cas, c'est mon approche à moi, de me dire, voilà, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai avancé beaucoup par ma personnalité, par ma force, ma volonté. Et on retrouve un peu le « ma force, ma volonté, ma personnalité ». C'est juste de l'égoïsme en fait. Et il y a un moment, je dois laisser tomber tout ça, me mettre au pied de Jésus, dire « oui, t'avais raison. Tu m'as dit qu'avec tout ça je me planterais, t'as raison. Et maintenant je veux repartir sur une basse scène, je veux que toi tu me changes ». À côté, je ne sais pas si vous verrez le lien, mais moi j'y ai pensé quand j'ai écrit tout ça, c'est dans Jérémie 1 au verset 15. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Alors Jérémie c'était un cas un peu à l'opposé de Pierre. Il a dit à Dieu, il dit je ne sais pas parler, je suis un enfant, tout ça. Donc c'est dans la première partie du chapitre. Et Dieu lui répond, ne dis pas je suis un enfant, parce que tu vas aller auprès des gens auprès de qui je t'envoie et tu vas leur parler de ma part. Donc au verset 15, car voici je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel, ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout autour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, et en l'occurrence à travers ta bouche, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Toi, saint Aaron, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ça pour que finalement, pour quelqu'un qui a du caractère, dit c'est parti, le Seigneur me dit d'y aller, je fonce, et puis... C'est pas quelque chose qui doit poser problème en théorie. Pour Jérémie, c'était l'inverse. Il se sentait petit, faible, Et il se dit, mais qu'est-ce que je suis moi pour aller faire ça de la part du Seigneur? Et Dieu lui dit, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Et je trouvais que c'était un contraste en fait qui était terrible entre Pierre qui se croit fort, entre moi qui me crois fort, qui fait des choses par moi-même et qui au bout d'un moment est obligé de m'écrouler et de dire bah, « Seigneur, prends la main, j'y arrive pas ». Et Jérémie qui dit « je suis rien » et Seigneur qui dit « vas-y, va de ma part et je te rendrai invincible, personne ne pourra te vaincre ». On a les situations qui sont complètement inversées en fait. Et du coup ça nous donne l'exemple à suivre. De dire j'abandonne mes prérogatives, mon courage, ma force, et je prends tout ce que Dieu me donne parce qu'alors je serai vraiment invincible. Dernier exemple, c'est celui de Paul. Alors, c'est peut-être encore pire pour Paul parce qu'on a très peu d'exemples de comment il était avant sa conversion, mais par contre on a plein de versets sympas sur après sa conversion. Alors qu'est-ce qui me fait dire qu'il avait un mauvais caractère, Paul. Un mauvais caractère, une forte personnalité. Je dis, la limite entre les deux, elle est un peu compliquée à trouver. La façon dont il traite les chrétiens avant sa conversion. Je pense que c'est un indice. Il ne se contentait pas de ne pas aimer les chrétiens. Il les détestait. Il respirait le meurtre contre eux. Il respirait la menace contre les chrétiens. Il est allé partout pour se débarrasser des chrétiens, les faire mettre en prison, les faire tuer. Et ça, c'est voilà, il y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Il y va à fond parce qu'il est convaincu que les chrétiens, c'est de la vermine, qu'il faut s'en débarrasser. Il y a des gens qui pourraient se dire, bon bah ouais, les chrétiens, ils sont, ouais, les chrétiens, c'est nul, ça représente rien, ils sont complètement à côté de la plaque, ils pensent des choses qui sont fausses, mais bon, c'est tout quoi, ils font ce qu'ils veulent de leur côté. Et il y a des gens qui sont capables de laisser filer un peu comme ça. Et je pense que moi, Paul n'était pas de ce genre-là. Il ne pouvait pas laisser filer, c'était important, c'est tout, c'est comme ça. Et je crois que c'est quelque chose qui nous caractérise de dire non, je ne peux pas laisser filer, c'est important, c'est tout. Et on a tendance à s'emballer très rapidement. Un des versets dit « Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Non, on ne sait pas grand-chose de plus de Paul avant. Le Paul après, il est intéressant. Alors, j'ai gardé la partie intéressante pour le peu de temps qui reste à la fin. On le voit en fait dans les lettres qu'il a écrites. Si on prend Galates 2, verset 20, encore, c'est que des versets très très connus. Hein. Donc c'est Paul qui écrit la lettre aux Galates et qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et c'est ça qui est important en fait, c'est « J'ai été crucifié avec Christ ». Il était conscient de ce qu'il était avant, du personnage extrême qu'il était dans le sens du diable. Et ils disent « Tout ça, c'est mort avec Dieu, ça a été crucifié ». Et maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Alors, on cite souvent ces versets-là, mais pas forcément à propos du mauvais caractère, tout ça. Mais pourtant, ça s'applique à ça aussi. Ça s'applique en fait à toute notre vie. Et du coup, si c'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire que je dois présenter les caractéristiques de Christ. Je dois présenter le caractère de Christ. Et nulle part vous trouverez, parlant de Jésus, qu'il avait mauvais caractère, qu'il s'emballait trop facilement, qu'il avait tendance à s'affirmer, même à écraser les autres s'il le fallait. Tout ce qu'on lit de lui, c'est de la douceur, c'est de la patience, c'est de l'amour, c'est de l'humilité, de la soumission. Alors oui, il s'est mis en colère une fois dans le temple, mais je ne pense pas que là, c'était s'emballer de manière exagérée en fait. Mais si vous prenez Christ, vraiment, c'est caractérisé par l'amour, la douceur, la patience. Et c'est tout à l'opposé d'avoir un caractère qui est fort et qui s'affirme et qui fait tout ce qu'on a vu juste avant. un verset qu'on a lu énormément ces derniers temps. C'est dans 1 Corinthiens 1, verset 26. Et je souligne que c'est encore Paul qui dit ces choses-là. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Je pense que ça parle en soi, en fait. Si vous croyez fort, si vous croyez avoir une volonté suffisante pour faire plein de choses, alors Dieu n'a pas besoin de vous. Et c'est pas vous qui l'utilise pour faire ce qu'il a à faire. Si je me crois intelligent, si je me crois suffisant par moi-même, alors Dieu utilise les gens que je pense être pas intelligents pour me confondre moi et pour réduire à néant ceux qui sont intelligents. Si je fais partie de la catégorie de ceux qui se croient sages, de ceux qui se croient forts, qui se croient capables de faire plein de choses, alors Dieu n'a pas appelé ces gens-là. Le salut n'est pas pour moi. Je suis conscient de ce que je dis. J'espère que je suis pas le. Enfin, si, j'espère que je suis le seul dans la pièce à qui ça s'applique. Mais je suis pas sûr. Mais c'est des paroles, quand on y réfléchit et qu'on le met par rapport à notre vie, et qu'on se dit, mince, je corresponds à cette définition-là. C'est dur. Et en même temps, c'est bon parce que le Seigneur nous remet à notre place. Et on en revient à ce que disait Christine tout à l'heure, on en revient au miracle. Parce que si, comme moi, vous savez que vous avez ce caractère-là, vous avez, j'espère comme moi, essayé de vous en débarrasser. Malheureusement, on n'arrive à rien. Parce que chasser la nature, elle revient au galop. Je ne peux pas arriver de moi-même à faire des efforts et à me rendre doux, sage, humble, soumis, comme l'était Jésus. C'est impossible. Et je confirme que c'est impossible. Alors, si vous voulez, essayez, hein, mais vous arriverez à la même conclusion que moi. Et la seule chose que puisse faire, qui puisse être faite, c'est que Dieu fasse son miracle, justement, me transforme, change mon caractère, change ma vie. Le problème, c'est qu'il faut l'accepter. Il faut arrêter d'être fier, d'avoir cette volonté, cette envie de faire les choses par nous-mêmes. Et je pense que c'est ça le pas qui est le plus important, qui est le plus dur, c'est d'arrêter de s'en vanter, en fait, de ce caractère. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a beaucoup aussi dans la région, de bah moi j'ai un sale caractère et puis j'en suis content, au moins je me laisse pas faire et puis je me laisse pas marcher dessus. On l'entend souvent, ça, hein. Et pourtant c'est pas du tout le caractère de Dieu, et c'est pas du tout quelque chose qui glorifie Dieu. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, donc 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. Donc Paul décrit une vision qu'il a eue, et après il explique, on va le reprendre peut-être au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est là où on doit en être amené, en fait. À comprendre que quand moi j'ai perdu toute velléité, toute envie de faire les choses par moi-même, alors c'est là que le Seigneur peut enfin agir, prendre la main et faire les choses correctement. Parce qu'avant on fait n'importe quoi. Et j'ai envie d'inverser un peu la fin quand Paul dit « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort », c'est l'inverse aussi. Si je suis fort, Alors c'est là que je suis faible. Alors je me suis posé la question quand même de savoir, on essaie des fois de se récupérer un peu devant Dieu. Je ne sais pas si c'était total, si ça vient de là, ce que je vais vous dire là maintenant, ou si c'est un peu le Seigneur qui adoucit un peu la claque. Et je me suis demandé, est-ce que tout est réellement noir? On en revient, hein, tout est noir ou tout est blanc. Je fonctionne beaucoup comme ça. Est-ce que c'est totalement négatif d'avoir un fort caractère, une forte volonté? Est-ce que ça peut pas être utile quand même? Et je suis tombé sur une feuille de calendrier exactement au moment où je me posais cette question-là. Donc c'est Vivre aujourd'hui du 6 novembre, qui disait, quel genre de foi avez-vous? Une foi invisible, sans sacrifice, sans risque et donc sans valeur, ou un feu qui brûle? Une vie facile, centrée sur soi-même, ou la fidélité qui relève les défis et qui accepte les risques? Le prophète Élie interpelle le peuple d'Israël devenu infidèle sur le mont Carmel. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. D'un côté, il y a la foi à bon marché du peuple qui cloche des deux pieds. Mieux vaut être prudent, sans être fanatique, mieux vaut être tolérant et vivre sa vie sans trop s'inquiéter qui est vraiment Dieu. Mieux vaut s'accommoder que se rendre la vie trop compliquée. Et là, par exemple, quand on a une personnalité assez affirmée, on se rend la vie compliquée. À l'extrême opposé de cela se trouve Élie et les prophètes de Baal. Ces derniers sont engagés à 100% dans leur idolâtrie. Ils jouent leur vie, le savent-ils seulement? Ont-ils mis leur confiance dans le pouvoir politique qui vacillera en ce moment critique? La conviction d'Élie semble être qu'il vaut mieux être froid que tiède. Si Dieu est Dieu, seul 100% est suffisant et raisonnable. Élie semble aimer les défis, Dieu aussi. Des nombres désespérants, 1 contre 450, voire 850. Le spectacle rituel de l'opposition, vouloir forcer la main de Dieu par ses méthodes. L'obstacle d'un sacrifice noyé d'eau. Baal est un dieu de beau temps, le vrai Dieu se reconnaît dans la tempête. À lui, rien n'est impossible. Finalement, toujours contre Élie, mais seul le vrai Dieu répond à la prière, sans trucage, sans cinéma. Alors ce que j'en retire de cette feuille, c'est que Dieu, il veut pas des chrétiens tièdes, moumous, qui sont un peu sans couleur, sans saveur et qui passent partout, alors qui sont tellement doux, mais qui passent partout. Il veut des hommes et des femmes qui soient engagés à 100%, prêts à relever des défis. Dieu veut des personnes qui se lancent pour lui à fond, dotées d'une volonté formidable, mais entièrement soumises à lui. Ce n'est pas notre foi en nous qui compte, mais notre foi en Dieu. Dieu veut des gens qui soient à fond, mais encore faut-il que les gens soient à fond pour lui et pas simplement pour tout le reste. Je pense que bien souvent, si je regarde ma vie honnêtement, je suis capable de faire preuve de persévérance, de volonté, sauf malheureusement dans les cas où ça servirait le Seigneur. Dans ces cas-là, curieusement, je suis plus discret, moins réactif, moins volontaire. Dieu veut des hommes forts en Christ. Dieu veut des gens dotés d'une volonté de faire pour ne pas se détourner de la voie qu'il leur demande de suivre. Mais cette volonté doit lui être entièrement soumise. Nous devons être entièrement sous son contrôle. C'est lui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui parcourt le chemin et nous, on lui tient la main et on le suit. Dieu ne nous demande pas de devenir... J'ai écrit une belle phrase, alors je vous la dis. Je suis assez content. Dieu ne nous demande pas de devenir transparent, il aime les couleurs. Mais il est le seul capable de faire un beau tableau avec ses couleurs. De nous-mêmes, on fera quelque chose de bariolé qui ressemblera à rien. Je crois vraiment que Paul, il a été transformé par le Saint-Esprit, Pierre aussi, il a été complètement changé par lui. Alors du coup, il nous reste, nous, une seule chance, une seule chose à faire, demander que Dieu nous change et demander ce miracle dont on a parlé tout à l'heure. Dieu veut utiliser toutes nos capacités, même notre volonté, même notre tout ce qui peut être fort en nous, il veut le soumettre à lui, mais après il peut l'utiliser, il peut faire des choses bien. Alors je vous encourage à reconnaître si c'est votre cas ou pas. Je dis pas qu'on est tous comme ça ici, hein, j'espère pas. Mais reconnaissez-le si c'est votre cas, ça fait du bien déjà de le reconnaître. Après on pleure parce qu'on s'aperçoit qu'on est capable de rien de nous-mêmes et qu'on n'est pas capable de changer. Mais l'étape d'après, c'est d'être heureux parce qu'on voit que le Seigneur nous change et fait des belles choses avec nous. Voilà, je vais prier. Seigneur, je te remercie de ces prises de conscience que tu nous donnes, que tu me donnes. Et Seigneur, merci parce que tu fais toutes ces choses non pour blesser, non pour nous rendre malheureux, nous rendre tristes, mais juste pour nous montrer ce qui ne va pas dans nos vies et pouvoir nous utiliser après. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont une volonté forte, Seigneur, un caractère bien affirmé, Seigneur, qui sont capables d'aller à fond dans les choses. Seigneur, aide-nous à nous soumettre entièrement à toi, Seigneur, et que ces choses-là puissent devenir des qualités, des choses que toi tu utilises pour ta gloire. Seigneur, merci de ce que tu as fait de Paul. Seigneur, c'était un homme extraordinaire après pour te servir et il a été encore à fond, Seigneur, avec une volonté énorme pour toi, entièrement soumis à toi. Et je te prie vraiment de nous aider à plier les genoux devant toi, Seigneur, et à te laisser la main. Amen.